Osmose Radio.
Osmose.
Osmose.
La web radio du Havre.
Vous apprendrez bien vite qu'au théâtre, le meilleur se passe souvent en coulisses.
Être ou ne pas être au Festival d'Avignon, c'est la question qu'on peut se poser encore une fois.
Un œil en coulisses, l'émission qui débauche les artistes et les déloge le temps d'une heure.
Vous écoutez Osmose Radio, chers amis, vous écoutez Osmose Radio et vous avez bien raison. On a toujours raison d'écouter Osmose. Pourquoi ? Ben parce qu'on parle de thèmes éternels comme l'amour qui est un petit peu à l'honneur dans ma programmation aujourd'hui puisque je reçois un metteur en scène d'un spectacle où il est question de ce thème-là et qui se fait fort de l'illustrer de manière assez originale avec ce spectacle. Preuve d'amour pour lequel je vous reçois, Jean Sclavis. Bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est à Villeneuve-en-Seine, sous un chapiteau qui se trouve dans la plaine de l'Abbaye. On aura l'occasion d'y revenir parce qu'il fait assez chaud. C'est tous les soirs à 19h jusqu'au 22 juillet inclus, jusqu'au samedi 22 juillet pour la dernière représentation. Alors Villeneuve-en-Seine, c'est un petit peu ce festival jumeau de l'autre côté du Rhône, du festival OFF d'Avignon. Comment ça se passe jusqu'à présent ?
Bah, ça se passe très très bien. C'est vraiment une autre atmosphère, hein. Villeneuve, c'est vraiment la campagne par rapport à Avignon. Donc si vous voulez prendre effectivement l'air, venez à Villeneuve les Avignons.
L'air un petit peu chaud sous chapiteau, si je peux me permettre. Quand
tout à fait. Bon, enfin, on est quand même sous une pinède, donc il fait moins chaud que dans les autres chapiteaux. Et on a un rafraîchisseur d'air qui est arrivé, donc ça rafraîchit quand même un tout petit peu. Et effectivement, pendant une heure, il fallait choisir entre le bruit du rafraîchisseur d'air ou la chaleur du chapiteau. Et effectivement, on a opté pour la chaleur pendant une heure.
Et de toute manière, la température est à l'avenant des thèmes abordés, puisque bon, l'amour, la passion, tout
oui,
ça.
Oui, c'est caliente et caliente.
Voilà, bien sûr. Et tout cela nous emmène aussi en Argentine avec ce texte, Preuve d'amour, qui.
Ces textes, parce qu'il y a deux textes en fait. Preuve d'amour au pluriel.
Ah oui, voilà, Preuve d'amour. Alors, croyez-le ou non, mais moi, j'avais découvert ce texte de Roberto Arlt, Preuve d'amour, au singulier ou au pluriel, c'est selon, avec une mise en scène qui avait été faite par le Zéphiro Théâtre l'an dernier au Théâtre du Rempart. Et j'avais découvert cet auteur argentin qui écrivait dans les années 30. Et ce texte qui était un peu aussi une critique de la société bourgeoise de l'époque et sur fond d'amour passionné, aussi une critique un petit peu du capitalisme avant l'heure, avant les grandes contestations des années 70. Mais il y a d'autres dimensions dans ce texte que vous avez exploré en mettant ce texte en miroir avec une autre création, enfin un autre texte d'une auteure argentine, et aussi en utilisant de manière tout à fait originale des marionnettes pour décrire et pour illustrer ce texte-là. Alors, commençons par le commencement. Vous-même, Jean Sclavis, vous faites partie de la compagnie Émilie Valentin, qui est, elle, à l'origine de tout ce travail-là autour des marionnettes. Mais vous-même, quel est votre passé avant d'avoir intégré la compagnie ?
Alors, je suis comédien de formation. J'ai fait des études d'art dramatique au Conservatoire de Lyon. Et j'étais comédien généraliste, je pourrais dire, voilà, au début à Lyon, chez plusieurs metteurs en scène lyonnais. Et Émilie Valentin m'a proposé de venir manipuler dans un de ses spectacles. C'était en 1990, c'était le Vicomte pourfendu d'Italo Calvino. Et depuis, je n'ai plus quitté la compagnie. J'ai fait encore des allers-retours entre comédiens sans marionnettes et les spectacles de la compagnie. Mais depuis quelques années, je suis à la fois à l'adaptation des textes, je suis assistant d'Émilie pour la mise en scène, pas sur ce spectacle-là, puisque je la signe en solo. Je suis comédien, manipulateur, donc j'ai pas le temps de faire autre chose. Et c'est vrai que ça me suffit amplement.
Et c'est le terme technique, un manipulateur de marionnettes.
Oui, manipulateur, oui, manipulateur de marionnettes. Oui, c'est ça. Marionnettiste. Voilà. Mais le marionnettiste, pour moi, c'est plus le luthier, c'est-à-dire celui qui fabrique les marionnettes. C'est ce que fait Émilie, c'est-à-dire qu'elle fabrique, elle confectionne. Moi, je suis un pilote d'essai, si vous voulez. C'est-à-dire que voilà, je prends les marionnettes, je les essaie. Si ça ne va pas, on les retourne à l'atelier. Voilà. Et je les manipule. J'adore les manipuler, mais je ne les fabrique pas.
Il y a un côté artisanal sans doute en amont du spectacle qui doit être assez impressionnant. J'ai du mal à m'en faire une idée. Mais
Oui, certainement. Oui. Émilie, d'ailleurs, est à l'atelier. C'est vraiment un sacerdoce. Hein. Elle est à l'atelier du matin au soir. Là, justement, elle ne peut pas être là aujourd'hui parce qu'elle est en train de fabriquer les marionnettes du prochain spectacle que nous allons créer en septembre, où là, il y aura 60 marionnettes. Donc c'est un gros travail, effectivement, c'est un esclavage.
Et vous avez que demain, il y a 60 marionnettes, ben, bon voilà. Courage.
Oui, mais déjà avec demain, on peut en manipuler deux, donc en multipliant par le nombre de manipulateurs, effectivement, puis elles ne sont pas toutes en scène en même temps. Hein. Voilà.
Et alors, vous êtes metteur en scène de ce spectacle. Alors, ça m'a fait tiquer de prime abord cette expression, metteur en scène pour un spectacle de marionnettes. En voyant le spectacle, j'ai compris.
On dit mise en marionnette aussi. Hein, mais là, effectivement, il n'y a que 4 marionnettes. Et c'est vraiment un mano à mano entre les comédiens et les marionnettes, puisque les marionnettes sont de taille humaine. Donc voilà. Et en plus, les personnages manipulés ne sont pas forcément toujours les marionnettes ou les personnages fabriqués. Donc c'est là-dessus qu'on a voulu jouer, effectivement, sur ces deux tableaux, sur la manipulation au premier degré et la manipulation figurée.
Tout à fait, parce que c'est vrai que nous, en tant que public, hein, c'est aussi un petit peu pour ça qu'on va au cinéma ou au théâtre, c'est pour le plaisir aussi de se faire un petit peu mener par le bout du nez, sinon manipuler, comme vous le dites si bien. Mais aussi, au sein des textes que vous avez mis en scène, les manipulateurs ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Et ça, c'est aussi dû au talent d'Émilie Valentin, qui fabrique les marionnettes et qui a donné son nom à la compagnie, cette compagnie qui est basée pas très loin d'ici d'ailleurs, en Ardèche, au Teil. Et donc remonte un peu le Rhône et voilà. Sinon il y a aussi deux acteurs qui vraiment donnent une dimension tout à fait singulière à ce spectacle, et donc il faut saluer le talent parce qu'ils sont à la fois acteurs, comédiens et en même temps manipulateurs de marionnettes eux-mêmes. C'est Claire Harrison Bellet et Francisco Cabello,
qui est également musicien puisqu'il s'accompagne au bandoneon et il danse avec la marionnette. Enfin, là, ils sont multicartes, multifonctions.
Sans diminuer le talent de Claire Harrison Bellet, qui, elle, doit être Superwoman parce qu'elle change de robe et de tenue en règle générale à peu près 120 fois durant tout le spectacle.
Oui, c'est un peu Arturo Brachetti, notre Arturo Brachetti à nous.
Non, c'est vrai que ça m'a impressionné. Quoi. Ouais. Elle a
beaucoup
de changements.
Elle manipule les robes aussi, oui, très rapidement.
on aimerait en savoir plus, mais cela ne nous regarde pas. Allez, ce qui se passe en coulisses, oui. C'est aussi un petit peu le thème de l'émission, mais pour le moment, on va rester plutôt dans le côté professionnel avec ce côté marionnettes, etc., qui nous intriguent à la fois quand on est face à la scène, mais aussi pour propos desquels on ne peut pas s'empêcher de se poser des questions sur ce qui se passe derrière, parce qu'il s'agit de manipulation, comme vous l'avez dit. Et aussi, au tout début du spectacle, on viendra sur le détail des nouvelles et des textes après.
Oui.
Mais mes impressions, c'est qu'au début du spectacle, on a des marionnettes telles qu'on a l'habitude de se les imaginer, à savoir des marionnettes un peu à la guignole, quoi. C'est un peu le.
C'est pas tout à fait ça. Enfin.
Non, mais si vous voulez, au niveau des dimensions, ça reste.
Elles sont beaucoup plus grandes que les guignoles. Mais effectivement, comme on ne voit qu'elles et qu'il n'y a pas de rapport avec les marionnettistes, on ne voit que les marionnettes au début, effectivement. Donc on ne sait pas le rapport d'échelle. Mais c'est des marionnettes qui font 90 cm de haut. Elles sont assez grandes. Et elles figurent des enfants. Donc des enfants d'une dizaine ou d'une douzaine d'années. Mais comme effectivement on n'a pas le rapport avec l'humain, on ne sait pas quelle est la taille de ces marionnettes. Et en plus elles ont des pieds, donc c'est pas des guignols, parce que les guignols c'est des marionnettes à gaine. Il y a une question technique, et là ce sont des marionnettes à crosse et à gâchette.
Voilà. D'accord.
Donc, pour les spécialistes.
Voilà donc des petits outils, des petits mécanismes qui permettent de les manipuler. Pardonnez mon côté néophyte, sinon béotien. mais c'est vrai que bon, en plus avec l'effet de profondeur, moi j'étais au fond de la salle, peut-être que effectivement
oui,
je me suis
imaginé
les marionnettes plus petites qu'elles ne le sont en réalité. Mais pour autant, ce qui est bluffant, pardonnez-moi d'utiliser ce terme, ce qui est tout à fait impressionnant, c'est après où les acteurs arrivent avec des marionnettes à taille humaine. Et s'il n'y avait quasiment pas le mouvement, eh bien j'aurais eu l'impression d'avoir affaire à un troisième acteur, par exemple, vraiment un être humain. C'est assez confondant. Et ces marionnettes interviennent grâce à des voix enregistrées en tant qu'acteur pratiquement.
Dans la première histoire, oui. C'est-à-dire que les marionnettes ont deux statuts différents dans la première et dans la seconde histoire. Dans la première histoire, le personnage masculin est effectivement comme un personnage humain. C'est-à-dire qu'il a le même rôle, il est interprété. Alors que dans la deuxième histoire, ce n'est qu'un mannequin, c'est une effigie. Donc je voulais montrer effectivement les deux dimensions que peut avoir la marionnette, parce qu'effectivement la deuxième c'est qu'un mannequin presque un mannequin de vitrine, si vous voulez. Donc voilà, donc elles ont deux statuts assez différentes.
Et en fait, ce spectacle est un diptyque, un premier où, comme je le disais tout à l'heure, la marionnette à taille humaine est quasiment un troisième acteur, voilà. Et le second où effectivement il s'agit plutôt d'une poupée de chiffon grandeur nature,
d'un mannequin, d'une effigie.
Voilà. Et jamais il est question du statut de commandeur ou quoi, pas du tout.
Non.
Mais c'est vrai que elles interviennent de deux manières différentes parce qu'il s'agit de l'adaptation de deux textes. Alors, Preuve d'amour est le nom du spectacle. Pourtant, la preuve d'amour n'est que la moitié du spectacle en fait, puisque ce texte est et la deuxième adaptation, la deuxième après l'entracte, hein, la deuxième partie du spectacle. La première est le texte d'un autre auteur argentin, plus contemporain, puisque ça date des années 1990. Il s'agit d'Esther Cross avec L'amour de Victoria.
Tout à fait, La mort de Victoria qui n'a pas été écrit pour le théâtre mais qu'on a adapté parce que Esther Cross écrit des nouvelles surtout, mm-hmm. Elle est traductrice également, elle est contemporaine, elle est vivante puisqu'elle est venue il y a deux jours voir la création de son œuvre. Et donc Esther Cross effectivement n'écrit que des nouvelles et nous avons déjà adapté une de ses nouvelles que nous avons jouée à Buenos Aires. Et là, il nous a permis effectivement d'adapter ce texte, L'amour de Victoria, qui faisait un diptyque avec Preuve d'amour, qui est une autre preuve d'amour. Donc, c'est ce qui nous permettait de mettre ces deux textes en miroir. Et dans Preuve d'amour, ce qui m'intéressait surtout, le texte de Roberto Ward, c'était mm-hmm. le synopsis, c'était le squelette en fait du texte, et non pas effectivement toutes les implications historiques de l'Argentine des années 30. Donc moi, ce que je voulais effectivement, c'est garder la trame et le confronter avec le travail d'Esther Cross.
Voilà. Parce que Roberto Arlt est un texte, ce texte Preuve d'amour est très intéressant, mais il a différentes dimensions, dont celle à laquelle vous êtes attaché. Puis on ne va pas l'apprendre ça aux auditeurs qui sont pas nés de la dernière pluie, mais l'amour ne va jamais sans quelques manipulations. Parfois.
Voilà, tout à fait. Moi, je me suis intéressé à la citation de Pierre Reverdy qui dit qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et en fait, là, en l'occurrence, les preuves d'amour ne sont que des prétextes à manipulation. Donc, pour un marionnettiste, effectivement, ça fait écho, d'où l'intervention des marionnettes, qu'on fait danser aussi. Hein. Donc, ça, c'était une prouesse aussi à voir, puisque les comédiens dansent avec les marionnettes.
Et notamment dans la deuxième partie que vous avez adaptée d'une manière plus contemporaine, mais dans lequel le thème du tango, on est en Argentine quand même, le thème du tango est assez fort, ne serait-ce que par rapport aux interventions musicales de Francisco
Cabello. Cabello, oui, tout à fait. Et effectivement, le deuxième, donc Preuve d'amour, je l'ai actualisé, enfin, je l'ai rapproché de notre époque, je l'ai situé dans les années 70, mmh. parce que je ne voulais pas faire une reconstitution historique des années 30. Et il me semblait qu'il fallait quand même une distance temporelle, parce qu'il y a des propos qui sont quand même un peu désuets et qui sont un peu datés. Mmh. Donc, il me semblait que les années 70 en Argentine, ça restait encore une époque où la tradition, où effectivement les fiançailles, où tout ça, avait encore résonnait encore. Mmh. Donc c'est pour ça que je l'ai gardé dans un passé mais beaucoup plus proche que le nôtre. Quoi.
Mais vous ne manipulez pas que les marionnettes, Monsieur Sclavis, vous manipulez aussi le temps, puisque texte de Roberto Arlt, vous l'avez pris dans les années 30, vous l'avez adapté dans les années 70, et le texte d'Esther Cross, vous l'avez pris des années 90, et vous l'avez adapté aujourd'hui, il y a des smartphones.
Voilà,
tout.
Voilà.
Ça, c'était pas il y a 25 ans.
Voilà, tout à fait.
Bon, allez, on vous en voudra pas pour ça, parce que le résultat est quand même assez vraiment intéressant, et pour ma part, j'ai eu beaucoup de plaisir à voir ce spectacle, alors dans des conditions assez chaudes, etc., mais oui, franchement, je ne boude pas mon plaisir, parce que ça valait quand même bien le coup, et j'ai été vraiment surpris par cette utilisation des marionnettes que j'ignorais. Enfin, je savais que ça existait, les marionnettes grandeur nature, bien entendu. J'ai déjà vu des vieux films des années 1920 et 1930 avec un garçon qui s'appelait Ladislas Starevich, un franco-polonais, qui lui aussi utilisait des marionnettes à taille humaine à l'époque pour illustrer des contes ou quoi.
Oui, c'est beaucoup plus vieux que ça.
Dans des films en noir et blanc, quoi.
C'est beaucoup plus vieux que ça. Il y a au Portugal... Da Silva qui utilisait ça, mais avant, c'est au XVIIIe siècle. Mmh. C'est-à-dire que les personnages, effectivement, grandeur nature, ça existe, c'est une tradition dans certains pays, voilà, qu'on redécouvre, mais effectivement. Et j'ai créé un spectacle qui sont les Fourberies de Scapin, que j'ai joué à Avignon cet hiver au Chêne Noir, où je suis seul en scène et tous les autres personnages sont des marionnettes de taille humaine.
D'accord. Voilà. Bon, ben, la manipulation et du public et des marionnettes ne va pas sans quelques fourberies, petit chenapan. Allez, écoutez, on va quand même se reconcentrer sur le spectacle parce que juste pour le moment, je m'aperçois que c'est peut-être un petit peu flou parce qu'on part un peu dans tous les sens. ce thème des marionnettes est tellement passionnant, mais c'est vrai que je tiens à préciser que ces deux textes constituent deux moitiés du spectacle. Tout d'abord, La mort de Victoria avec
L'amour. L'amour.
Excusez-moi,
l'amour
de Victoria. J'ai fait un lapsus. Du coup.
Mais qui n'est pas faux parce que effectivement, il y a une mort. Il y a une mort, mais ce n'est pas la mort de Victoria.
Et ce qui m'a intrigué d'ailleurs en préambule de ce texte, de cette partie du spectacle, il est question d'un grand manipulateur devant l'éternel, Faust.
Oui, tout à fait, oui, parce qu'on a monté aussi, ça c'est un petit clin d'œil qu'Émilie Valentin a voulu glisser dans le texte, parce que ça n'a pas été écrit par Esther Cross, elle a fait un prologue effectivement, elle prend les thèmes et elle a inséré effectivement des petits thèmes, effectivement Faust, on a créé le Faust de Marlowe et le Faust de Gounod avec des marionnettes, donc voilà, c'était pour faire un lien avec notre passé.
Et un grand manipulateur. Et puis ensuite, dans Preuve d'amour, là, il s'agit d'une histoire d'amour. Quelqu'un qui, justement, veut savoir si sa copine l'aime vraiment, sa promise l'aime vraiment. Et il va orchestrer une manipulation autour de ça. Et c'est là qu'intervient une marionnette, mais qui n'intervient qu'en contrepoint de sa promise, en fait.
Oui, tout à fait. Parce que moi, Robert Howard dit que le personnage donc, de Ginter est un homme riche, mais il donne pas, il dit pas ce qu'il fait, on sait absolument pas quel contexte. Donc moi, effectivement, dans les années 70, je l'ai transformé en créateur de mode, un plasticien. Donc il a une effigie, effectivement, il a un mannequin qui est vêtu d'un bâti. Le bâti, vous savez, c'est ce que les couturiers font avant de faire la robe. Et donc il a commandé en fait une effigie de sa fiancée. À l'état de marionnette, parce qu'il a de grosses difficultés relationnelles, je pense, avec les êtres humains et avec sa fiancée. Donc, il s'est fait créer une marionnette à l'image de Kokoschka. Alors là, il faudrait partir dans une autre histoire. Je me suis inspiré effectivement de l'histoire d'une troisième histoire d'amour, celle du peintre autrichien Kokoschka et d'Alma Mahler, qui était la veuve de Gustav Mahler. Effectivement, en 1918, lorsque Kokoschka et Alma Mahler se sont séparés, Kokoschka était désespéré et il a demandé à une marionnettiste, à une costumière, de lui fabriquer une marionnette à l'effigie d'Alma Mahler. Et on a toutes les lettres qu'il a écrites à cette costumière, à cette marionnettiste, qui sont délirantes, quoi. Il demande vraiment le grain de peau, les articulations. Enfin, il a des demandes, même jusqu'aux parties intimes qu'il veut. Enfin bon, c'est quelque chose de complètement fou. Et quand il a reçu la marionnette, il était désespéré parce que la marionnette était complètement ratée. Parce qu'à l'époque, peut-être que la marionnettiste n'était pas si bonne que ça ou qu'elle n'avait pas les matériaux nécessaires pour faire une poupée, une sorte de poupée gonflable, en fait.
C'est ce qu'il avait. Il n'y avait pas de truc en carbone à l'époque. Hein.
Non, et voilà. Et donc, il voulait en fait une effigie pour pouvoir avoir un modèle pour peindre. Parce que il peignait en fait Alma Mahler et pour avoir un souvenir de sa bien-aimée. Et quand il l'a reçue, il a essayé de faire bonne figure. C'est-à-dire qu'il acceptait, il mangeait avec elle. Elle était à sa table de repas, il invitait ses amis en sa présence, il allait même à l'opéra avec, enfin voilà. Et un soir, donc il a vécu plusieurs mois d'intimité avec cette personne, avec ce personnage, cette effigie, cette poupée. Et après une soirée de beuverie avec des amis, la marionnette est passée de main en main et elle a fini par être décapitée par un des invités qui était plus souple que les autres. Et la marionnette a fini dans le jardin, dans la fontaine du jardin. Les flics sont venus le lendemain pour savoir quelle était cette femme qui était décapitée. Voilà, ça avait toute une histoire. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle dans le monde des marionnettistes une poupée Kokoschka, c'est une marionnette qui a le corps d'une marionnette et la tête de son manipulateur. Voilà, donc on appelle ça une marionnette Kokoschka. Donc voilà,
c'est un type de
marionnette manipulée par son manipulateur et dont la tête du manipulateur figure la tête de la marionnette.
Avec un masque ou
non, pas forcément. Non, c'est la tête, la tête du manipulateur et il n'y a que le corps qui est fabriqué.
Très bien.
Donc voilà, pour un marionnettiste, donc ça faisait résonance et donc ça m'a guidé un peu dans la mise en scène. C'est pas forcément visible, mais moi ça m'a inspiré pour faire la mise en scène, notamment de Preuve d'amour de Robert Howard.
Ça doit être un thème favori des marionnettistes. Mais c'est vrai que
je ne sais pas si tous les marionnettistes connaissent en fait cette histoire-là. J'espère.
Mais peut-être qu'ils connaissent le type de marionnette sans connaître l'histoire qu'il y a derrière. Et c'est vrai que pour moi, c'était totalement inconnu quand vous m'en avez parlé tout à l'heure. Et justement, ça rejoint un thème que je voulais aborder. Moi, je n'ai pas pu m'empêcher, en voyant ces marionnettes à taille humaine arriver sur scène, J'ai fait le rapprochement avec les androïdes qui vont arriver très très prochainement dans notre quotidien, si ça se trouve. Et en plus, cette histoire de garçon qui a vécu avec une marionnette Kokoschka, ça fait aussi penser à ces hommes, je pense notamment à Jean Rochefort dans le film Barracuda, ces hommes qui ont des relations exclusives avec des poupées gonflables, pardonnez-moi cette comparaison. C'est des gens qui existent. Et c'est vrai que ce thème du mannequin, sinon de la marionnette, qui nous renvoie à notre propre humanité et aussi au problème que nous pose la relation avec les autres, c'est des thèmes là aussi qui sont éternels, depuis le golem, etc., depuis l'Antiquité grecque, même si on veut. Et c'est forcément, en tant que marionnettiste, vous y êtes confronté. Alors vous avez choisi cette manière-là. Mais c'est vrai que dans le futur, est-ce que vous pensez que, allez savoir, vous serez amené à programmer des androïdes plutôt qu'à manipuler des marionnettes? Est-ce que c'est quelque chose qui vous effleurait déjà?
On s'est intéressé en tout cas à l'électronique pour appréhender les objets, par exemple. Mmh. Pour prendre un objet, effectivement, quand on a une marionnette à gaine, c'est facile parce que la marionnette à gaine, on met la main à l'intérieur de la marionnette et on a deux doigts pour prendre les objets. D'accord. Mais une marionnette qui est distante de nous, effectivement, une marionnette à tringle, par exemple, ou une marionnette à fil, ou même une marionnette portée comme celle que vous avez vue, une marionnette taille humaine, pour appréhender un objet, c'est très complexe. Mais on s'aperçoit qu'on trouve toujours des subterfuges et que le bricolage est plus intéressant que la mécanique. Et que plus on sophistique en fait une marionnette, moins elle fonctionne. Et ça devient effectivement un robot, mais non pas non plus une marionnette. Donc en fait, on s'est détaché de ça et on revient vraiment à l'artisanal. Et c'est comme de dire que le cinéma allait détruire le théâtre. C'est pas le cas du tout. Les automates ne vont pas détruire les marionnettes, c'est complètement autre chose. Donc voilà, c'est en parallèle, on peut utiliser effectivement la technique, la mécanique. Par exemple, c'est ce que font les guignols de l'info. Mmh. C'est très très technique et ils sont à trois manipulateurs sur une marionnette parce qu'il y a les yeux à manipuler, il y a la bouche, c'est très technique. Alors que nous, c'est beaucoup plus artisanal et je crois qu'il y a de la place pour ça aussi et je pense pas qu'on aille vers quelque chose de plus automatisé que ce qu'on fait là.
Voilà, le magicien avait fait une effigie en terre glaise et il a soufflé dessus en récitant la formule magique. Vous serez toujours les marionnettistes, ceux qui soufflent la formule magique sur ces effigies. Et donc, notamment au théâtre, avec des spectacles comme celui que vous présentez au festival Villeneuve en Seine, Preuve d'amour, sachant qu'il y a deux textes en fait derrière cet intitulé. Alors, je tenais à préciser quand même, peut-être que d'autres spectateurs n'auront pas mon ressenti à moi, mais mon sentiment quand même en sortant du chapiteau, c'est que bon, déjà, il avait fait chaud quand les cigales chantaient très fort et qu'on avait parfois du mal à entendre vos acteurs, mais tout ça, c'est pas très grave parce qu'en fait, je me suis aperçu que non seulement j'avais eu cet éternel plaisir du spectateur de m'être gentiment fait manipuler, mais qu'en plus, sur scène, eh bien, les manipulateurs n'étaient pas forcément ceux qu'on croit. Je n'en dis pas plus pour laisser le plaisir de la découverte aux futurs spectateurs qui viendront voir toute cette semaine au festival Villeneuve en Seine, mais mettons-nous en selle vers de nouvelles aventures théâtrales, chers amis, notamment ce spectacle de marionnettes, à mon avis assez novateur, par la compagnie Isabelle Valentin.
Émilie Valentin.
Elle s'appelle Valentin. Voilà. Pour lequel vous avez intégré Jean Sclavis pour mettre en scène ce spectacle. Alors, c'est tous les soirs à 19h sur la plaine de l'Abeille de Villeneuve-les-Avignon jusqu'au samedi 22 inclus. Voilà, merci d'être venu présenter ce spectacle.
Merci à vous.
Et puisqu'il n'y a jamais d'amour sans passion, il n'y a jamais de preuve d'amour sans quelques passions derrière, eh bien je vous propose justement de nous quitter avec quelques notes de tango avec le Quatuor Oblivion Quartet et le titre Tango Appassionado.
Thank you.